fondons ensemble quelque chose de supranational, dans une entité supranationale. Et ainsi, tout sera très simple et très pratique.
Trait d'union.
Interrogation en profondeur sur la vocation et la destinée de l'Europe.
François Hollande s'est aussi inquiété à Strasbourg de la méfiance croissante des peuples vis-à-vis de l'Europe.
Tant qu'il y aura la crise, il y aura une défiance de l'Europe, même si ce n'est pas l'Europe qui fabrique la crise.
Trait d'union, le magazine hebdomadaire de l'Europe.
Parler ou définir l'avenir d'une nation comme la nôtre, sans situer cet avenir dans le cadre européen, on ne doit pas accepter que cette question soit éludée.
Madame Rosière, bonjour. Décidément, on ne se quitte plus. On s'était vu il y a quelques jours de cela. Vous aviez parlé donc des grands sujets européens. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est votre action sur le terrain local.
Oui, c'est quelque chose d'important pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est d'assurer ce lien et de rendre l'action de l'Union européenne plus proche, de l'incarner, de faire en sorte que, de montrer aux habitants de cette région que l'Union européenne peut aussi agir pour eux. On parle souvent des fonds européens qui permettent de financer des projets, de l'action de l'Union européenne en matière de soutien à l'agriculture. Moi, je travaille sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui, je pense, est extrêmement utile pour les entreprises et les PME de nos régions, c'est la reconnaissance des productions traditionnelles, des productions artisanales locales. Donc, on pense bien sûr, pour notre région, au couteau de la Yole, au vase d'Anduze, au grenat catalan, pour n'en citer que quelques-uns. Et donc, pour assurer cette protection, je porte au Parlement européen un dossier pour l'extension des de la protection des indications géographiques. Aujourd'hui, vous savez, certaines indications géographiques sont protégées, mais c'est uniquement dans le secteur agricole, que ce soit nos vins, nos fromages, ont une protection, et une protection qui est européenne, qui assure que ces productions ne peuvent pas être imitées ailleurs en Europe. Et c'est aussi une protection que l'Union européenne tente de porter dans les échanges commerciaux avec le reste du monde. Par contre, pour les productions artisanales, il n'y a aucune protection aujourd'hui. C'est pas tout à fait vrai. Une protection est en train de se mettre en place en France. Elle est en place depuis quelques mois maintenant. Mais pour faire en sorte donc que, par exemple, une indication géographique, la Yole, ou une indication géographique, grenat catalan, soit reconnue. Mais si cette protection, elle ne marche qu'en France. Si vous allez sur le marché anglais ou allemand, eh ben, cette protection, elle n'a plus cours. Et donc, ce que je souhaite, et ce pourquoi je travaille, c'est que cette protection, aujourd'hui, elle soit étendue à toute l'Union européenne. Donc, pourquoi cet engagement-là ? Ben parce que c'est au fil des rencontres, au fil aussi de, et puis par ma sensibilité personnelle, vous savez, je suis de la région, je suis très attachée à ces productions-là. J'ai toujours vu mon grand-père avec son couteau de la Yole, et ça m'a fait mal au cœur quand j'ai découvert en fait que des couteaux qui se prétendaient de la Yole étaient fabriqués en Chine, et puis en plus c'était d'une qualité particulièrement mauvaise. Donc, j'ai beaucoup discuté avec les chefs d'entreprise, avec aussi les élus des territoires pour qui c'est extrêmement important, et j'ai absolument aucun doute sur l'apport et la nécessité de cette protection-là. C'est bien sûr un soutien des productions locales, en garantissant leur reconnaissance. C'est un soutien des territoires, ça permet de localiser l'emploi, ça permet d'améliorer l'attractivité des territoires avec des productions emblématiques comme ça, c'est la notoriété et l'attractivité touristique des territoires qui est renforcée. Puis c'est aussi un bénéfice pour les consommateurs qui au moins seront sûrs de ce qu'ils achètent, pourront s'assurer que quand on leur dit que c'est un couteau de la Yole ou un grenat catalan, ça vient bien de nos régions et pas que ça n'a pas été produit ailleurs dans des conditions parfois douteuses. Donc, c'est un combat que je mène au Parlement. Je suis rapporteur sur ce dossier depuis le mois de février. Il m'a fallu quelques mois pour convaincre mes collègues de l'utilité d'avancer sur ce dossier. Je travaille aussi avec la Commission européenne, qui est le gouvernement de l'Union européenne, qui pourra décider de proposer ou pas une loi en la matière. Donc ça fait maintenant un mois que je travaille sur ce dossier. Nous avons beaucoup consulté collectivement. J'ai rencontré beaucoup d'entreprises, pas uniquement en France. Et le constat, c'est que le besoin est là. Dans énormément de pays européens, il y a une attente très forte des PME un peu partout en Europe tous les pays européens ont des produits emblématiques. Vous pouvez penser aux tartans écossais qui font les habits traditionnels. J'ai même les tailleurs londoniens de Savile Row qui sont venus expliquer qu'ils en avaient assez de voir des costumes chinois arriver estampillés Savile Row et donc qu'ils voulaient une protection. Le marbre de Carre, le cristal de Bohème, vous en avez vraiment partout dans l'Union européenne. Et donc il y a un réel consensus, une dynamique qui est en train de se construire. Et donc mon rapport, je l'espère, sera voté à la rentrée. C'est en bonne voie et les discussions sont extrêmement constructives. Et donc suite à ce rapport qui demande à la Commission d'intervenir, j'espère que nous aurons une proposition législative de la Commission pour assurer cette protection très rapidement à compter de l'année prochaine.
Et ce serait fait dans votre esprit sous la forme d'un brevet déposé comme l'INPI ou ce serait plutôt sous la forme d'un AOC
Alors, il faut s'inspirer de ce qui fonctionne, à savoir les indications géographiques et les appellations d'origine telles qu'elles sont protégées aujourd'hui. Comme on n'est pas forcément dans le champ de la production agricole, ça ne me gênerait pas qu'en France, comme c'est le cas aujourd'hui, l'INPI, donc, qui s'occupe de propriété intellectuelle, soit aussi impliqué dans la gestion, puisqu'on est sur de la production artisanale industrielle, donc justement pour assurer la bonne protection vis-à-vis des marques, parce que l'INPI s'occupe des marques, mais s'occupe aussi de propriété intellectuelle, donc je pense que ça peut être un bon acteur. Je pense qu'il faut aussi garder, comme pour les indications géographique agricole, un système à deux niveaux, c'est-à-dire un échelon de proximité nationale qui assure la discussion avec les professionnels. Moi, je pense que les professionnels doivent être directement impliqués dans la création de ces indications géographiques, parce que ce sont eux qui détiennent ces savoir-faire. Ils connaissent la réalité justement du bassin de production, des méthodes de production, des matériaux, de ce qui fait la qualité des produits. Donc le travail de définition des indications géographiques doit se faire au plus près avec les professionnels, avec les élus locaux et les organisations locales qui connaissent bien le territoire aussi, pour garantir un cahier des charges, pour s'assurer qu'on a bien quelque chose de qualitatif. Et puis après, on doit avoir un échelon européen permet justement une protection à l'échelle européenne, qui permet aussi éventuellement de gérer les conflits entre différentes appellations, entre différents pays de l'Union européenne, comme c'est le cas aujourd'hui hein, pour les appellations d'origine agricole. Et puis il faut que ça reste quelque chose de relativement simple et pas trop coûteux, parce qu'on s'adresse avant tout à des PME, voire des très petites entreprises, et il faut que ça reste abordable et praticable pour des petites structures.
Mais dites-moi, quand vous parlez de vases d'Anduze, mettons un laiton, il doit avoir du mal à imaginer. Vous présentez ça avec des photos, avec des produits que vous apportez. Un vase d'Anduze, c'est tellement lourd. Mais peut-être
non, c'est un peu compliqué.
Faites-vous une exposition qui permettrait de voir cela.
Donc justement, pour animer le débat, juste avant le vote qui aura lieu donc en plénière en octobre, j'organise une exposition alors de photographie. On s'était posé la question d'amener des produits au Parlement européen, mais comme vous le dites, certains sont volumineux, certains sont fragiles aussi, et ce serait dommage de ça demanderait beaucoup, une logistique assez compliquée, donc on va faire des photos, mais ça peut donner de très très belles photos également. Donc une exposition pour montrer la diversité des productions européennes, et puis un cycle de conférences justement pour associer l'ensemble des acteurs, élus, professionnels, organisations professionnelles, producteurs, entreprises, pour mieux appréhender les enjeux, la manière dont devrait fonctionner idéalement ce cadre de protection.
On attend le résultat avec impatience. Mais vous n'avez pas que ce genre d'action sur le terrain, vous avez d'autres actions et d'autres investissements personnels, on va dire.
Oui. Dans le cadre des commissions parlementaires, je m'occupe d'autres sujets. Entre autres, je l'évoquais très rapidement, de la défense du droit d'auteur, parce que particulièrement en France, nous avons une production culturelle, une activité culturelle qui est extrêmement riche, qui emploie énormément de personnes. C'est le deuxième secteur économique en Europe, la culture. On le sait pas assez. C'est plus que l'automobile ou l'aéronautique. Donc le droit d'auteur, c'est ce qui permet aux artistes de vivre de leur art. Et donc c'est quelque chose, une spécificité européenne dont nous devons être fiers et que nous devons certes améliorer, mais aussi préserver. Et puis après, ça c'est dans le cadre des commissions parlementaires, mais en dehors des commissions parlementaires, il y a d'autres investissements dans des groupes de travail qui justement sont plus larges, sont transverses. Et donc, en ce qui me concerne, en tant que ancienne sportive, en tout cas toujours sportive, j'essaie d'être de garder cette activité-là je suis persuadée de l'utilité, de la nécessité du sport pour l'équilibre. Donc j'ai pratiqué le judo pendant de longues années. Je suis vice-présidente de ce qu'on appelle l'intergroupe, donc sport au Parlement européen, qui est qui se concentre sur les différents aspects du monde du sport et du monde sportif, à la fois les questions de gouvernance dans le monde sportif, qui ont fait un petit peu couler d'encre ces derniers temps, gérer aussi la précarrière des sportifs, parce que beaucoup de sportifs se retrouvent dans la précarité. Également, les questions de sport et société, d'intégrité du sport. Et moi, je suis particulièrement investie sur la place des femmes dans le sport. Vous comprendrez pourquoi. Je pense que le sport peut être un moyen pour les femmes, les jeunes filles, un moyen d'émancipation, un moyen justement de sortir d'un environnement, de rencontrer d'autres personnes, un moyen d'accéder à une forme d'environnement nouveau. C'est aussi un moyen de changer l'image des femmes et de dépasser les stéréotypes qui s'attachent parfois à la représentation des femmes, montrer que les femmes peuvent être actives, sportives. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et de la même façon, j'essaie de lutter contre les discriminations, en particulier les discriminations homophobes dans le sport. Le sport, en la matière, peut apporter le meilleur et le pire. Et moi, je souhaite qu'il apporte uniquement le meilleur, qui permette justement le plus grand épanouissement du plus grand nombre. Et donc, je souhaite qu'on soit très, très, très engagé et très, très intransigeant sur l'homophobie dans le sport.
Vous devez être un peu satisfaite, je dis bien un peu, hein, pas beaucoup, de voir que eh bien, l'équipe de France de football féminine a failli être championne du monde. Et également, maintenant, on voit de plus en plus à la télé, parce que c'est le média numéro un, du rugby féminin.
Tout à fait. Les Françaises n'en ont aussi pas démérité pendant la Coupe du Monde de rugby féminin juste l'année d'avant. Donc les femmes dans le sport sont de plus en plus visibles. Pas encore assez, mais de plus en plus. Il faut continuer. Mais effectivement, je m'en réjouis.
Oui, il y a le handball. Oui, je commence à mettre. Il y a aussi le basket, évidemment.
Oui, on a de très très belles équipes féminines en France et on peut vraiment en être fiers. Et après, dans le cadre de ces intergroupes, de ces groupes-là, donc je vous parlais de lutte contre l'homophobie dans le sport, mais c'est un aspect particulier et que je traite en tant que vice-présidente de l'intergroupe sport, mais je suis également membre de l'intergroupe pour les droits des LGBT, lesbiennes, gays, bi et trans, donc pour la lutte contre les discriminations homophobes, quel que soit le domaine, et pas uniquement dans le sport. Donc c'est là aussi un engagement vraiment important pour moi, d'ailleurs, que je concrétise aussi lorsque je suis présente sur le terrain. J'étais présente pour la Lesbian and Gay Pride à Montpellier juste avant l'été. Donc, c'est quelque chose pour moi d'extrêmement, d'extrêmement important. J'ai eu l'occasion de rencontrer également l'association Le Refuge, qui est une association nationale, mais qui est aussi qui trouve son implantation originelle à Montpellier. Donc, ce travail en lien avec les associations, à la fois au niveau local, national et européen, c'est quelque chose de permanent dans mon travail. Et puis après, pour ce qui est des actions plus directement en lien avec le territoire, je suis aussi membre de l'intergroupe 20. Mais ça, c'est à la fois par investissement pour la région, par intérêt personnel, parce que je suis une amatrice de vin, et puis par histoire familiale, puisque j'ai une partie de ma famille qui est une famille de viticulteurs. Donc j'ai là aussi un intérêt à la fois régional et personnel. Et donc nous traitons les questions de vin de manière transverse. Moi, je suis particulièrement investie pour essayer de faire en sorte que les vignerons indépendants, par exemple, puissent exporter leur production en dehors des frontières françaises. On pourrait penser que le marché européen le permet, mais il y a encore quelques obstacles qui font que c'est pas si simple que ça. Et donc je travaille avec entre autres le président de la Fédération des vignerons française des vignerons indépendants et européenne d'ailleurs, pour essayer de lever ces derniers obstacles là
sur un plan beaucoup plus mais extrêmement local, on va dire Montpellier. Oui. Qui est votre ville, c'est vous qui l'avez indiqué, votre ville de cœur. Je crois que on vous verra bientôt, parce que vous serez là pour fêter un peu la libération, je crois.
Oui. Donc fin août, le 30 août, je serai aux cérémonies de la libération de Montpellier. Mais j'essaie d'être, dès que c'est possible, présente sur les événements emblématiques comme ça, qui sont des événements, bien sûr, locaux, mais qui ont aussi une portée pour moi, qui suis radical de gauche, très attaché aux valeurs républicaines, portée, j'allais dire émotionnelle, mais symbolique, en termes de valeurs très fortes. J'étais présente le 14 juillet. J'étais également là le 8 mai, donc dès que c'est voilà sur ces moments forts qui rythment la vie locale, dès que je le peux, je suis présente. Je suis aussi présente sur des événements qui sont plus de nature différente. On parlait de vin, j'étais au lancement des estivales sur l'Esplanade. Je suis aussi présente lorsqu'il y a des événements marquants sur la ville ou sur la région. J'avais accompagné Harlem Désir à Bordeaux. Alors on sort de la région, mais on reste dans la circonscription. Lorsqu'il avait été voir un certain, à la fois l'agence Erasmus, qui, comme vous le savez, promeut les échanges étudiants partout en Europe. J'étais aussi présente lorsque Myriam El Khomri est venue signer le contrat de ville pour justement accorder des financements sur le quartier de la Paillade. Et puis, j'essaie aussi d'investir du temps pour l'avenir. Et pour moi, l'avenir, ce sont les lycéens et les étudiants. Alors j'interviens beaucoup avec les associations étudiantes, avec le mouvement européen. J'ai fait plusieurs événements avec le mouvement européen et Sciences Po Bordeaux. Sur Nîmes, je suis intervenue avec le mouvement européen qui faisait une simulation du Parlement européen pour aller auprès des lycéens qui avaient simulé le Parlement européen, animé la séance plénière, à écouter le résultat de leurs travaux sur les thématiques en cours au Parlement européen. On était sur des choses comme les télécoms, sur le séjour des ressortissants étrangers dans l'Union européenne. Donc c'est toujours intéressant de voir la vision des plus jeunes sur ces questions-là. Et puis j'accueille aussi des groupes au Parlement européen pour faire découvrir les institutions. Et je garde en mémoire un échange particulièrement riche, très, très intéressant et très, très sympathique avec des collégiens de Sérignan qui étaient venus en fin d'année dernière. Dans un voyage, j'avais été. Ça avait été un excellent moment, avec bien sûr un excellent travail de l'équipe pédagogique qui avait créé une très belle dynamique sur ce déplacement et des collégiens particulièrement enthousiastes. On avait passé plus d'une heure, je crois, à discuter et j'avais même trouvé le temps trop court. Et donc, comme ils ont eu gentillesse de me le proposer, je suis venue ensuite à Sérignan pour écouter et assister et découvrir l'exposition qu'ils avaient faite pour raconter leur voyage dans les institutions. C'était un échange, voilà, encore une fois, extrêmement riche et puis surtout très plaisant et très agréable.
L'enthousiasme des étudiants ne peut nous faire oublier le vôtre, hein, parce qu'on a débordé le temps, mais peu importe. Moi, j'ai une dernière question, réponse très courte. Madame Rosière, qu'en pensez-vous à vous ?
Ah, vous savez, c'est une satisfaction d'être à la fois au service des concitoyens et au service de l'Europe. Donc, pour moi, c'est déjà quelque chose qui m'apporte énormément.
Très bien, merci et à très bientôt.
À bientôt.
Fondons ensemble quelque chose de supranational, dans une entité supranationale. Et ainsi, tout sera très simple et très pratique.
Trait d'union.
Interrogation en profondeur sur la vocation et la destinée de l'Europe.
François Hollande s'est aussi inquiété à Strasbourg de la méfiance croissante des peuples vis-à-vis de l'Europe.
Tant qu'il y aura la crise, il y aura une défiance de l'Europe, même si ce n'est pas l'Europe qui fabrique la crise.
Trait d'union, le magazine hebdomadaire de l'Europe.
Parler ou définir l'avenir d'une nation comme la nôtre, sans situer cet avenir dans le cadre européen, on ne doit pas accepter que cette question soit éludée.